France Culture, l'esprit d'ouverture.
Réagir, témoigner, hashtag sur France Culture, Éric Chavroux.
Hashtag, quand le témoignage prend la parole, toutes les semaines nous vous appelons à réagir sur les réseaux sociaux à propos d'un sujet de société, témoigner et compléter les paroles de ceux que nous avons interviewés. Hashtag, c'est dès le lundi sur les réseaux sociaux et le vendredi à 7h24 dans les matins et sur franceculture.fr.
France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Le président américain Donald Trump prédit un avenir génial à la Corée du Nord si Kim Jong-un s'engage sur la voie de la dénucléarisation. Le président américain l'a prévenu sur le réseau social Twitter cette nuit à quelques heures de son face-à-face à Hanoï avec le dirigeant nord-coréen. Donald Trump a également évoqué une opportunité rare pour celui qu'il a appelé son ami Kim Jong-un. Les deux hommes doivent se rencontrer à Hanoï, donc au Vietnam, à plusieurs reprises d'ici demain soir. Les relations était déjà tendue entre Amsterdam et Paris dans le dossier Air France KLM et voilà que les Pays-Bas prennent une participation au capital de la compagnie sans avoir prévenu le gouvernement français ni le conseil d'administration. C'est ce qu'a indiqué hier soir le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il estime qu'Air France KLM doit être géré sans interférence étatique. À terme, les Pays-Bas souhaitent détenir environ 14% des actions de la compagnie aérienne, soit autant que l'État français. Autre dossier économique délicat pour le gouvernement, la scierie d'Ascoval dans le nord à Saint-Saulve. Hier, le dossier du repreneur potentiel Altifort a été définitivement écarté, faute de financement. Une nouvelle audience est prévue aujourd'hui au tribunal de Strasbourg. Un délai pourrait être accordé à l'entreprise et à ses 281 salariés pour trouver une solution pérenne. Alexandre Benalla et Vincent Crase sont sortis de prison hier soir sur décision de la Cour d'appel de Paris. Les deux hommes auront passé une semaine derrière les barreaux pour ne pas avoir respecté leur contrôle judiciaire. Il s'agit toujours du dossier des violences du 1er mai l'année dernière. Le hijab de sport ne sera pas mis en rayon chez Decathlon. La marque française recule face à la polémique. La ministre de la Santé Agnès Buzyn s'était notamment positionnée contre la commercialisation d'un tel produit destiné aux femmes qui veulent courir avec un voile. Et puis il ne fait pas bon de courir en ce moment dans le Pas-de-Calais et en Île-de-France face au pic de pollution. La circulation des voitures est d'ailleurs régulée à Paris et dans la petite couronne, tout comme à Lille. Les véhicules les plus polluants ne doivent pas rouler.
Stanley Kubrick, une odyssée. Un ciné-concert à ne pas manquer. Avec la projection de 2001, l'Odyssée de l'espace, au Grand Rex le 17 mars à 17h. Avec l'Orchestre National de France et le Chœur de Radio France. À Radio France, la musique fait son cinéma. Renseignements, maisondelaradio.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03 et nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Changer de vie radicalement. Une jeune mère célibataire parisienne décide de s'installer en Normandie, au cœur des prés salés du Cotentin, et elle se réinvente en apprenant le métier de bergère. Jeune bergère, c'est le titre du film de Delphine Détry qui sort aujourd'hui dans quelques salles d'art et d'essai. On en parle ce matin avec sa réalisatrice et avec notre collègue et partenaire Olivier Delcroix qui dirige le Figaroscope. Bonjour tout le monde, c'est le Réveil Culturel, tous les jours à la radio à 6h ou quand vous voulez en passant par le podcast ou l'écoute en ligne. C'est une émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard avec ce matin à la prise de son Cédric Chaclus.
Le Réveil Culturel, mercredi, cinéma.
Salut sa licorne. Salut la grande, tu as fait tes petits? Tu les as fait quand on avait le dos tourné? Ils sont beaux ces petits. Ouh là là. Ils sont beaux. Viens. Viens, on va te mettre. Viens. On va te mettre là. Hop. Alors attends, on va te mettre avec ta maman. Où est mon petit loulou? Attends, on va te chercher ta maman.
« Avant d'être au milieu de ces brebis, Stéphanie était parisienne, elle était graphiste, elle a aussi exercé le métier d'assistante de production et de réalisation. Mais en découvrant la campagne et surtout en rencontrant un berger, elle a décidé de tout abandonner pour se réinventer en apprenant le métier de bergère. Et aujourd'hui, à la tête de son troupeau de 180 têtes, elle découvre au quotidien les joies mais aussi les tracasseries administratives de sa nouvelle vie rurale. Elle s'occupe de ses brebis, de son potager bio, élève seule son petit garçon car son compagnon, lui, n'a pas voulu vivre à la campagne. Jeune bergère, tel est le titre de ce long documentaire qui sort aujourd'hui dans quelques salles au cinéma et nous recevons sa réalisatrice Delphine Détry. Bonjour.
Bonjour.
Comment vous avez connu Stéphanie ?
Stéphanie, je l'ai rencontrée en 2015. J'ai tourné un reportage avec elle pour une grande chaîne de télévision. C'était une commande, c'était des portraits croisés de trois femmes qui avaient eu un premier métier dans un domaine complètement différent et qui étaient venues à l'agriculture. Et donc, on a eu une relation privilégiée, on s'est donné des nouvelles. Et quand j'ai pris des nouvelles de Stéphanie, ça n'allait pas très bien. La sous-préfecture la menaçait de fermer son exploitation si ses brebis continuaient à se balader sur les routes, sachant que on n'a pas le droit de clôturer les prés salés avec des barrières en bois. Donc je me suis dit, ça serait assez injuste que son travail de plusieurs années disparaisse juste à cause de ça. Donc ça, c'était la petite étincelle, la petite étincelle qui a donné l'idée de faire le film, mais ce qu'il a vraiment concrétisé, c'est qu'il y avait matière à raconter une histoire, puisqu'elle passait le cap des 5 ans d'installation en tant que jeune agricultrice. Et donc, c'était la possibilité... Enfin, elle avait cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'était la possibilité de montrer la condition des petits paysans qui se sont installés et qui, au bout de 5 ans...
Avec un prêt d'État, de l'État et tout ça, oui.
Tout à fait. Avec 10 500 euros d'aide.
Il faut justifier.
La dotation jeune agriculteur qu'il faut... il faut, en fait, établir un plan de développement économique au départ. C'est-à-dire que vous allez faire quand même un peu des plans sur la comète... en essayant de faire des pronostics sur combien d'agneaux vous allez faire naître et vendre, combien de kilos ou tonnes de carottes vous allez récolter. Et donc, vous devez, en fait, faire face à vos engagements au bout de 5 ans et prouver que vous êtes rentable et que vous pouvez vous verser un SMIC. Et ça, en fait, il y a très peu de jeunes agriculteurs qui y parviennent.
Mais c'est aussi parce que ce personnage, elle n'est pas la seule à être bergère, votre personnage Delphine Détry. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de la suivre, elle, plutôt qu'une autre? Parce que vous la connaissiez d'avant? Parce qu'elle est jolie, on peut le dire aussi?
Oui, ça compte qu'elle soit jolie. Enfin, j'ai eu un grand plaisir à la filmer. Parce que, en fait, j'ai vu dans cette femme, avant tout, une femme en quête de liberté. Je m'étais pas spécialement dit, je vais faire un film sur une agricultrice. Mais je la voyais se battre pour faire quelque chose qui avait du sens pour elle. Je la voyais essayer de sortir des cases. Et donc, le film, il pose la question, est-ce qu'on peut sortir d'une voie toute tracée? Est-ce qu'on peut sortir des cases? Quel est le prix de la liberté? Et je dois dire que moi-même, à ce moment-là, l'idée, c'était de me battre pour faire un film avec mon propre regard, comme j'en avais envie. Donc, en fait, je pense que les idées de film percutent un peu notre trajectoire personnelle. Donc, il y a tout ça qui a fait que j'ai eu envie de me lancer dans cette histoire.
Revenons à la vie de Stéphanie quand elle s'installe. Parce que vous, quand vous la filmez, elle a déjà 5 ans derrière elle, hein, d'installation. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans, avant que vous veniez la voir et la filmer?
Alors moi, je connais pas exactement toutes les étapes, des cinq années qui précèdent. Je sais que ça a été compliqué de s'installer. Je sais que ça a été compliqué d'obtenir un quota de moutons et que c'est à la faveur d'une guerre entre les autres éleveurs, puisque ces moutons sont dans les prés salés en pâturage collectif avec d'autres élevages. Voilà, je sais qu'elle a bénéficié à un moment donné d'une guerre entre éleveurs pour obtenir un premier quota de 100 moutons.
Entre éleveurs, voilà. C'est-à-dire, il y avait d'autres femmes ou elle était la seule?
Alors, il y a 3 éleveurs principaux dans ce havre, on appelle ça un havre, cet endroit où il y a les prés salés. Il y a une autre femme et un autre homme, voilà, 3 principaux éleveurs. Mais Stéphanie est la seule à ne pas être une locale.
Donc comment elle a été accueillie par les gens du terrain?
Elle n'a pas été très bien accueillie, c'est le moins qu'on puisse dire. Disons que quand vous arrivez de Paris, vous êtes jeune, vous êtes jolie, vous n'êtes pas issue du milieu rural. Pour certaines personnes, vous pouvez être un peu la femme à abattre. Enfin voilà, c'est étonnant d'ailleurs parce que cette idée qu'elle représente une menace et qu'elle va faire de l'ombre aux autres éleveurs, c'est quand même beaucoup un fantasme, je trouve. Mais donc voilà, donc Stéphanie, elle a essayé de s'intégrer. Elle m'a raconté que elle a essayé de porter la combinaison verte, ce qu'on appelle la cote, avec les grandes fermetures éclairs là des agriculteurs, en se disant je vais être mieux acceptée. En fait, ça marchait pas. Donc elle s'est dit, ben je m'habille comme je veux, je dessine des moutons si j'en ai envie, et puis voilà. Elle a évidemment, elle a été l'objet de rumeurs, de colibets, une femme célibataire avec un voilà, parce qu'elle est seule avec son fils. Donc il faut avoir le cuir épais pour voilà, pour résister à tout ça.
Ou alors aimer les grandes prairies brumeuses de la très venteuse Normandie, là où elle s'est installée.
Ah bah c'est magnifique.
C'est un décor de rêve. D'ailleurs, ça a été pour vous aussi, en tant que réalisatrice, Delphine Détry, une manière de rendre compte de ce territoire.
Absolument. Absolument, j'ai envie que le spectateur, en voyant le film, ressente vraiment l'ambiance de ce lieu. Je trouve que c'est un décor où on se sent très vivant. Il y a le vent, il y a l'air qui vient de la Manche, donc les embruns, la pluie, bien sûr, par moment. Mais oui, j'avais envie que le film soit imprégné de cette ambiance et que le spectateur puisse ressentir ce paysage.
Vous êtes resté combien de temps sur place avec votre bergère, avec Stéphanie ?
Alors, le tournage s'est étalé sur un an et demi. Il y a 35 jours de tournage sur un an et demi. Donc voilà, j'y suis retournée, j'y suis allée une douzaine de fois. Et à chaque fois, avec le plaisir de retrouver cet espace immense, voilà, où la terre et le ciel se confondent. Moi, je trouve ça magnifique. C'est un paysage qu'il faut arpenter pour en tomber amoureux, je trouve. Et donc, je l'ai beaucoup, voilà, avec ma paire de bottes et ma caméra, je l'ai beaucoup arpenté pour me l'approprier aussi et le restituer dans le film.
Est-ce que le film a été scénarisé ou est-ce que vous êtes allé sur place pour filmer le quotidien de votre personnage principal, Stéphanie, la bergère, celle qui préfère qu'on l'appelle ainsi d'ailleurs. C'est très important d'ailleurs cette terminologie de bergère, on y reviendra. Est-ce que vous êtes allé sur place en disant « je vais capter ces moments et puis au montage je vais faire mon film, je vais raconter son histoire » ou est-ce que d'avance vous saviez ce qu'elle allait vivre, ce qu'elle allait vous raconter lorsque la caméra était enfin arrivée chez elle?
Alors moi j'avais une trame quand même précise qui était l'idée de ce passage de 2016 à 2017 et ce bilan des 5 ans d'exploitation avec l'idée que si elle se versait pas ce SMIC, si son exploitation n'était pas rentable...
C'était le ressort dramaturgique.
C'était le ressort dramaturgique, mais du coup, ça me donnait aussi la temporalité du tournage. Enfin, voilà, je savais que ça allait être plus d'un an, et ça guidait le choix des séquences. Voilà, et après, au fur et à mesure, le tournage démarre. À chaque fois que je reviens, je regarde mes rushs, je me dis qu'est-ce qui manque pour raconter l'histoire. Et il y a quand même, il y a une partie qui est scénarisée, parce que pour obtenir des financements pour un film, on écrit quand même un scénario. Donc on essaye d'anticiper le réel, ce qui n'est pas une chose simple, mais on sait qu'il va y avoir des choses récurrentes. C'est cyclique, la vie d'un éleveur. Il y a les naissances, il y a les mises au pré. Il y a ça. Et puis, évidemment, la magie du documentaire, c'est tout ce qu'on ne peut pas anticiper, tout ce qui va être cadeau, bon, comme la dernière scène du film, typiquement. Donc voilà, il y a une part de scénario et il y a toujours une part d'improvisation et d'être toujours très très connecté à ce qui se passe pour le capter.
Par exemple, une scène très marquante de votre film Jeune bergère, Delphine Détry, c'est quand cette bergère, Stéphanie, donc, explique son métier. Et donc, elle l'explique très bien aux enfants. Par exemple, cette rencontre avec les enfants, vous l'avez suscitée ou pas ?
Alors non, en fait, je n'ai rien suscité, mais j'ai cherché à savoir ce qui allait se passer, qui pouvait nourrir le film, en fait, nourrir le récit. Et donc, j'ai su qu'elle... On se parlait beaucoup, en fait. Hein. On échangeait énormément. Il fallait aussi que Stéphanie sache pourquoi je voulais filmer telle séquence, etc. Qu'elle comprenne que ça soit justifié. Donc, quand j'ai su qu'il y avait une visite des enfants, ça m'a semblé intéressant. Effectivement, c'est vrai qu'elle met, du coup, les choses à leur portée et beaucoup à la nôtre en même temps.
Est-ce que tout le monde a retrouvé ses questions ?
Oui !
Allons, Nigo !
De votre profession.
Alors le nom officiel c'est exploitant agricole, mais c'est pas très joli. Donc le mot bergère, qui est un mot un peu plus ancien, je trouve que c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus évocateur. Donc tu vois, bergère, ça me va bien comme nom pour ma profession.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
J'ai choisi ce métier parce que je trouvais que c'était un métier où on était assez libre. D'abord, comme je travaille toute seule, j'ai pas de chef ou de directeur pour me dire quoi faire. C'est moi qui prends mes décisions, je suis complètement indépendante. Et c'est un métier qui est à l'extérieur. Donc je trouve qu'on est mieux quand on est dehors, même sous la pluie, qu'enfermé dans un bureau. Et enfin, c'est un métier qui est différent à chaque saison. Et chaque journée est différente. Je refais rarement la même chose deux jours de suite. Donc je m'ennuie pas.
Comment organisez-vous les bêtes dans le Havre ?
Excellente question, parce que comme vous voyez, c'est le bazar. Il y a plein de moutons, tous mélangés. Et je pense que quand on sera au milieu du troupeau, vous allez me dire « Oh là là, mais comment tu reconnais les tiennes ?» En fait, c'est pas moi qui reconnais mes brebis, ce sont mes brebis qui me reconnaissent moi. Et le principe d'organisation, c'est que tous les troupeaux sont mélangés comme dans le temps, puisque le Havre, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à tout le monde, le Havre, ça appartient à l'État. Donc on n'a pas le droit de mettre des clôtures, tu vois, on n'a pas le droit de se faire son petit champ clôturé au milieu. Il faut respecter le principe du pâturage collectif où tous les moutons sont mélangés.
Voilà ce que c'est que d'être bergère aujourd'hui en 2019. Stéphanie la bergère, filmée par Delphine Détry. Le film Jeune bergère sort dans quelques salles d'art et d'essai aujourd'hui. Et depuis le début de notre entretien avec la réalisatrice Delphine Détry, vous avez pu peut-être entendre un rire. Et ben c'est le rire d'Olivier Delcroix, mais ça ne veut pas dire du tout qu'il n'a pas aimé ce film. Bien au contraire, vous l'avez vu. Bonjour Olivier Delcroix.
Oui, bonjour Toufik. Effectivement, moi c'est un film qui m'a complètement charmé. J'étais sous le charme. J'avoue que en écoutant même les extraits, je me rends compte à quel point c'est un film qui est connecté aussi à l'enfance. Moi, j'ai évidemment, comme n'importe quel gamin, lu Le Petit Prince et quand la phrase « dessine-moi un mouton » apparaît, elle résonne en moi de manière très profonde et la bergère dessine des moutons.
Ouais.
Et je trouve qu'effectivement, il y a un vent d'enfance qui plane comme ça pendant tout le film et moi j'ai
ce qui n'empêche pas le réel de s'inviter et n'est pas facile au quotidien,
loin de là, et c'est le combat au quotidien de cette bergère qui est effectivement charmante. On est sous le charme. Au bout de 2-3 séquences, moi ça y est, j'étais amoureux. J'ai trouvé que cette Stéphanie était forte. C'est vraiment Jeanne d'Arc, quoi. Il y a quelque chose de fort qui s'exprime en elle. Elle est droite, elle y va. Elle cette liberté là aussi, elle est formidable. Alors nous, par contre, les hommes, on s'en prend plein la tête. Hein, ça, malheureusement, le pauvre ex-mari qui a voulu jouer les gentlemen farmers et qui finalement n'a pas tenu la distance, il est vraiment expédié en 2-3 coups de cuillère à peau. Bon, ma foi, c'est la vie. Mais c'est une héroïne flamboyante et voilà, et c'est pour ça que je suis resté complètement aimanté par le film. J'ai suivi cette trajectoire exceptionnelle, ça donne envie d'y aller, hein. Et voilà. Donc oui, j'étais sous le charme. Oui, je veux savoir ce qu'elle devient, cette Stéphanie, parce qu'elle est formidable. Elle m'a tapé dans l'œil et je trouve que le film, il faut absolument qu'on le voie. Il est important qu'on voit ce film.
Voilà, et vous ne filmez pas seulement Stéphanie ou les pâturages ou ce décor merveilleux de la Normandie, vous filmez aussi les animaux, mais alors au plus près d'ailleurs des animaux. Alors comment on filme aujourd'hui les animaux ? Parce qu'on a l'impression qu'ils étaient pas du tout dérangés par une quelconque présence étrangère. Or, je suppose que vous étiez avec votre caméraman, votre preneur de son...
Non, en fait, j'étais toute seule. Je suis chef opérateur et puis chef opérateur image. Et après, j'ai commencé à faire le son moi-même parce qu'on avait au départ pas de budget pour un ingénieur du son. Et puis, c'est un peu un travail d'équilibrisme, mais ça fonctionnait quand même. Et ça permettait d'avoir une relation très proche avec mon personnage. Et du coup, j'étais toute seule sur le terrain. Et le troupeau, j'avais très envie d'en faire un personnage. Parce que déjà, Stéphanie parle à ses brebis. Donc il y a cette interaction et donc j'ai eu envie autant que possible de filmer les brebis à hauteur de regard. C'est comme ça que j'ai fait du troupeau un personnage.
C'est-à-dire vous étiez accroupie pendant que vous filmiez.
C'est-à-dire je mettais la plupart du temps pour ces plans-là, ma petite caméra était sur trépied, mais je mettais le trépied le plus bas possible et donc j'étais accroupie en bergerie à filmer les brebis. Et alors c'est vrai que des fois quand je me déplaçais je les effrayais. Du coup, je leur parlais aussi. Je leur disais, mais les filles, vous êtes habituées, vous me connaissez maintenant. Et donc,
D'ailleurs, c'est un film de filles, hein. Vous avez remarqué, Olivier Delcroix, oui, quand elle a des stagiaires, ce sont des filles, les animaux, voilà, on a l'impression.
C'est un gynécée.
Bon.
C'est le girl power.
Voilà, exactement.
Non, mais voilà. Et donc, les brebis, c'est rigolo parce que, quand je bougeais pas, elle s'habituait à moi et elle venait me voir et elle se regardait dans l'objectif de la caméra qui faisait un peu un miroir, quoi. Et j'ai trouvé ça amusant et puis j'ai trouvé que c'était un animal assez doux et agréable à côtoyer, quoi.
S'il fallait parler un peu de vous, qu'est-ce que vous avez fait avant ce film, Delphine Détry?
Ben, j'ai fait deux autres documentaires de création qui sont des moyens-métrages. J'étais en situation de quasi ou totale autoproduction, mais c'était un moyen d'affirmer le fait que j'avais besoin de faire des choses où je proposais un regard subjectif, avec une forme de liberté aussi.
Mais sur des sujets de société comme c'est le cas pour Jeanne Bergère.
Alors, mon premier documentaire, je l'ai tourné dans un centre de soins palliatifs dans le sud de la France, qui est un très beau lieu de soins, donc le documentaire s'appelle « Le temps qui reste ». Et ce lieu représentait pour moi une forme d'utopie concrète. Voilà, des soignants qui ont créé le lieu de soins dont ils rêvaient. Le deuxième documentaire était consacré à la grossesse. Et puis voilà, en fait, j'ai pas de thème de prédilection, mais ce sont des questions ou des rencontres, des histoires, voilà, qui, comme je vous le disais, croisent notre trajectoire et qu'on a très fort envie de raconter.
Et sinon, dans la vie de tous les jours, pour vivre ou survivre, qu'est-ce que vous faites?
Non, j'ai beaucoup travaillé pour la télévision.
Ouais, en tant que réalisatrice,
voilà. En tant que chef opérateur, voilà, j'ai fait beaucoup de tournages de doc ou reportage jusqu'en 2016. Et bah là, je me consacre à mes projets de documentaires de création qui sont des longs métrages, donc ça prend du temps.
Jeanne Bergère, est-ce que c'est un film qui parle d'une génération de votre génération d'ailleurs, ou de la génération de votre personnage, Stéphanie, qui décide aujourd'hui de faire ce retour à la Terre?
Alors, j'ai pas forcément pensé ça comme un film de génération. Cela dit, il y a effectivement beaucoup de nouveaux paysans. Une installation sur trois est le fait d'un néo-paysan ou une néo-paysanne. Donc il va falloir, je pense, compter sur eux. Et puis je me suis rendu compte, depuis que j'ai terminé le film, à travers des lectures, qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui deviennent bergères. Alors, elles sont bergères au sens propre, c'est-à-dire salariées d'un éleveur. Et donc dans les Alpes ou des Pyrénées, il y a pas mal de jeunes femmes trentenaires qui quittent un précédent métier complètement différent et qui embrassent ce métier et qui ont des difficultés proches de celles de Stéphanie. Donc en fait, son portrait va parler, je pense, à beaucoup de gens.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Il existe encore des bergères qui promènent leurs blancs moutons. Elles ont la taille légère et un vieux bâton. Malgré le règne des machines, dans certains villages cachés, un vieil anon courbe les chines en grimpant des sentiers perchés. Et dans les prés sur l'herbe verte, le voyageur fait tout à coup la plus heureuse découverte. Une bergère aux yeux très doux. Il existe encore des bergères qui surveillent leurs blancs moutons. Elles ont la taille légère et un vieux bâton. Celle que je vis au sommeil avait robe courte et corset, coiffée d'un grand chapeau de paille. Elle était faite, Dieu le sait, surveillant le tout.
Elle n'avait pas de chapeau de paille, votre bergère. Elle était plutôt en jean. C'était bien sûr Brassens en 82. Je rappelle, Jeanne Bergère, le film de Delphine Détry, sort aujourd'hui. Olivier Delcroix, qu'est-ce que vous nous proposez d'autre au cinéma?
Nous, on a énormément
nous,
apprécié.
C'est-à-dire le Figaroscope.
Le Figaroscope, voilà. On a énormément apprécié, d'ailleurs, on est partenaire du documentaire de Bruce Weber qui s'appelle Nice Girls Don't Stay for Breakfast. Les jolies filles ne restent pas pour le petit déjeuner.
Très bon choix.
N'est-ce pas? Et c'est un documentaire qui est consacré à la vie de Robert Mitchum, qui est un personnage qui, évidemment, parle un peu à tout le monde. C'est un personnage qui n'a pas eu la reconnaissance, l'aura qu'il méritait.
Mais est-ce qu'il cherchait vraiment la reconnaissance, Robert Mitchum?
Voilà. On peut poser la question, effectivement. Moi, je sais que j'ai des souvenirs terrifiés et terrifiants
de la nuit
du chasseur avec Hate and Love sur ses mains. C'était un personnage qui avait une dimension mythique évidente, qui était en plus un playboy. Et Bruce Weber prend le temps. Alors, il faut savoir que Bruce Weber est un documentariste qui a aussi consacré un film à Chet Baker. Finalement, on est quand même tout petit peu dans le droit fil de ce style de personnage, voilà, dont le grain est là, dont la sensation de playboy, voilà, on est dans la séduction et on est dans cette espèce cette fois-ci de personnage totalement massif et en même temps mystérieux. Et c'est vrai qu'il a fait 130 films quand même. On se rappelle évidemment de Rivière sans retour avec Marilyn Monroe, on se rappelle de La nuit du chasseur, de celui par qui le scandale arriva ou la grève du passé.
De Vincent Minnelli, excellent dans
voilà,
ce film.
Voilà. Et du coup, c'est formidable
de retrouver
jusqu'à chez Jarmusch, oui. Exactement. Donc, moi, j'ai plongé pour ce documentaire. Je suis ressorti de là avec un sourire jusque-là qui me traversait le visage. Et Mitchum, ce côté comme ça, voilà, séducteur, mais avec ses fragilités, avec évidemment toutes ses failles. J'adore la façon dont Benicio del Toro dit, moi, quand j'étais petit, en fait, vous savez, j'avais deux personnages qui me faisaient peur. C'était Dracula et Robert Mitchum. C'était drôle, et c'est vrai que la façon aussi dont Clint Eastwood en parle est tout à fait attachante. Voilà. Donc Mitchum, forever.
Et puis vous êtes allé du côté du Grand Palais, Olivier Delcroix, cette semaine.
On est allé, oui, alors c'est marrant, j'ai au Figaroscope, on a envie de se faire peur. On profite de l'exposition de Fernand Knops au Petit Palais, effectivement, qui est un peintre symboliste. Né à Bruges.
Oui, c'est au Petit Palais.
C'est au Petit Palais. Ouais. Et finalement, en regardant ça, je me suis dit, mais c'est vrai que toutes ces femmes, c'est avec ce corps de guépard et cette tête de reine, ce sphinx, toute cette façon de considérer l'occultisme, l'ésotérisme dans cette peinture. Et puis, il y avait un autre livre aussi qui est paru, qui s'appelle Le Paris Occulte, qui a été fait par Bertrand Matteau. Et ben voilà, ça nous a donné l'envie au Figaroscope de nous consacrer au Paris de l'alchimie, au Paris un petit peu qui fait peur, qui nous donne des frissons. Saviez-vous que Notre-Dame de Paris est un temple alchimiste pour certains?
Bon, c'est pas la peine d'aller au Dao, alors.
Exactement.
Voilà, il y a ce qu'il faut.
La Tour Saint-Jacques, le Pont Neuf, qui est un lieu emblématique du Paris magique. Et puis, effectivement, on a essayé de dresser une cartographie comme ça du palais, du Paris occulte, pour se reconnecter avec les vieilles pierres, les toucher de manière un peu charnelle, et ce qui s'oppose évidemment au tout numérique qui nous envahit. Reconnectons-nous au Paris caché, au Paris secret, à l'ésotérisme, à l'alchimie.
D'une part, quand on habite à Paris, sinon on peut se reconnecter à la terre, comme votre jeune bergère. Merci Delphine Détry d'être passée ce matin.
Merci à vous.
Merci Olivier Delcroix et à très bientôt.
À très bientôt, merci beaucoup.
Passez une bonne soirée. Et je rappelle le titre du film, Jeune Bergère, ça sort aujourd'hui.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Voir le monde, au plus près, chaque jour à 17h, LSD, la série documentaire. Perrine Kervran.
De l'invention du bal public au free party dans les bois, en passant par les clubs selects de Montparnasse et les discothèques géantes avec laser, fumigène et boule à facettes, cette semaine, LSD vous entraîne sur le dance floor pour entrer dans la transe de la danse. Alors fermez les yeux, levez les bras bien haut et commencez à danser.
Une histoire des dance floors, LSD, la série documentaire, de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Un enfant a-t-il vraiment besoin d'un papa et d'une maman ? JFK a-t-il été assassiné par la CIA ? Les aides sociales coûtent-elles trop cher à l'État ? Et bien sûr, les Illuminati contrôlent-ils secrètement la planète ? Théorie du complot, fake news, idées reçues et distorsions de l'information. Si vous avez le moindre doute, il est grand temps d'avoir les idées claires.
Les idées claires, Nicolas Martin. Chaque mercredi, retrouvez un podcast audio et une vidéo. Plus d'infos sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La colère gagne les universités en Algérie. Moins de 24 heures après le sit-in des avocats devant le tribunal d'Alger, les étudiants ont occupé hier les campus contre une cinquième candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Parole d'un jeune Algérien dans un instant. Nous irons ensuite en Inde, où les tensions avec le Pakistan voisin montent. Un ministre dit toutefois ne pas vouloir d'escalade. Un conflit armé n'est d'ailleurs pas envisagé, vous le comprendrez. Et puis nous entendrons l'avocat de Vincent Crase, son client et Alexandre Benalla sont sortis de prison hier soir, fin de leur détention provisoire, mais comme depuis l'été dernier, ils restent sous contrôle judiciaire. Des jeunes et des étudiants ont donc participé à une nouvelle journée de mobilisation hier en Algérie pour dire non à un cinquième mandat brigué par Abdelaziz Bouteflika, le président algérien. Ils ont protesté, ces jeunes, dans plusieurs villes du pays, dans le calme une fois encore, à Alger, la capitale, mais aussi à Constantine, Sétif, Oran, réunis par plusieurs milliers, à Tissi Ouzou notamment, à 125 km à l'est d'Alger. Thibaut Cavaillès a pu joindre Missy Ibza, un jeune étudiant en finance de 20 ans qui ne préfère donner que son prénom, et il raconte.
Moi et plusieurs autres étudiants, nous avons fait le ramassage. Nous sommes passés par les différents campus qui composent notre université pour amener le maximum d'étudiants. Puis nous avons commencé donc à allonger la marche qui nous mène vers les différentes institutions, la mairie, la wilaya, etc. Donc les étudiants ont tellement compris que c'est leur rôle donc de porter ce sursaut populaire vers de réelles concrétisations et de réelles revendications. Donc quelque part, ils s'engagent vers ce combat et ils sont déterminés à faire sortir ce système. L'État est maintenant devant quelque chose d'inconnu. Elle est en train de voir un mouvement citoyen qui n'est récupéré pour l'instant par aucune mouvance et qui finalement aspire simplement à la liberté, qui n'a pas d'agenda politique qui pourrait être catégorisé comme haineux ou sectaire, etc. Je crois qu'on pourra y arriver vers quelque chose.
Et notons que pour la première fois hier, les médias d'État ont couvert les manifestations en Algérie suite à la demande de certains de leurs journalistes. Là, les manifestations tournent à la violence et sont souvent durement réprimées. Au Venezuela, la pression diplomatique est toujours plus forte sur le régime de Nicolas Maduro. Les États-Unis vont demander cette semaine une réunion et un vote du Conseil de sécurité sur une résolution portant sur l'aide humanitaire à apporter ou non au Venezuela. La Russie s'oppose cependant à toute mise en garde et toute mise en cause de Nicolas Maduro. Pendant ce temps, au Venezuela, la population, elle, survit et subit la crise. C'est un reportage de notre envoyé spécial, Benjamin Ely.
En voiture. Alors, on est dans un quartier qui s'appelle Los Palos Grandes, à Caracas. Un quartier de classe moyenne, mais avec beaucoup de misère aussi. ¿Cómo te llamas, señor?
José.
En la basura, vous mangez ce que vous trouvez dans les poubelles. Il faut que l'aide humanitaire arrive, dit José, 22 ans. Moi, je pourrais voter pour le gouvernement actuel, mais d'abord, il faut qu'il change des choses. Je demande au président d'ouvrir les yeux, car encore une fois, la situation est critique. Lui qui dit tout le temps qu'il aime tellement les Vénézuéliens, qu'il aime son pays, il faut qu'il fasse quelque chose pour nous. Une pharmacie.
Mais vraiment vide.
Notre traductrice, il reste quoi comme médicament ? De l'ibuprofène, 20 000 bolivars ?
$8.
Et le salaire minimum, il est à combien ?
$6.
On va rencontrer un homme qui s'appelle Nervi, il a 40 ans.
Nervi,
il garde des voitures de gens plus riches que lui. Vous avez maigri ces dernières années? Il a perdu 10 à 12 kilos. Je voudrais que ça change, reconnaît Nervi. Donc il veut une intervention très vite. Est-ce que vous avez confiance en Donald Trump? Il est prêt à intervenir?
Non.
Lui, il a toujours été riche, il n'a manqué de rien.
Tout
est politique pour lui, tout est dans son intérêt, tout est pour l'argent.
Benjamin Illy depuis Caracas. L'urgence nationale décrétée par Donald Trump va-t-elle tenir? Elle lui servait à financer un mur à la frontière avec le Mexique en passant outre le budget voté par le Congrès américain. Eh bien, hier soir, la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, a voté contre cette situation et plus d'une dizaine de républicains ont soutenu ce texte. C'est désormais au tour du Sénat, majorité républicaine, de se prononcer dans les prochains jours. Et le président américain suit tout cela à l'autre bout de la planète. Donald Trump est au Vietnam en ce moment. Il doit y rencontrer son homologue nord-coréen Kim Jong-un. Ils vont se rencontrer a priori ce midi pour parler dénucléarisation et surtout pacification. Ce sont deux puissances nucléaires d'Asie du Sud, l'Inde et le Pakistan. Elles s'affrontent depuis un attentat meurtrier contre l'armée indienne il y a 2 semaines dans une partie indienne du Cachemire, une région disputée par les deux pays. L'Inde accuse le Pakistan d'abriter des groupes terroristes. Les États-Unis les appellent ce matin à la retenue. Chacun se menace verbalement et se dit prêt à toute éventualité. Mais un nouveau conflit armé reste tout de même peu probable, Antoine Guinard.
Des réactions attendues après le raid éclair de l'armée de l'air indienne contre les infrastructures du Jaïch-e-Mohammed, une organisation qui a orchestré plusieurs attentats en Inde. Pour Ajay Sani, directeur d'un observatoire spécialisé sur les groupes terroristes en Asie du Sud, une escalade significative du conflit indo-pakistanais est toutefois à minimiser.
Ce qu'on observe, c'est que les deux parties veulent sauver la face. Le Pakistan ne va sans doute pas riposter, car selon sa version des faits, le raid n'a fait aucune victime et l'armée pakistanaise a fait fuir les pilotes indiens. De son côté, l'Inde a dit explicitement qu'elle avait ciblé des terroristes et non des militaires pakistanais. En revanche, ce qui va certainement se passer dans cette guerre de l'ombre entre les deux pays, c'est une augmentation des attentats terroristes ou des échanges de tirs à la frontière.
L'Inde assure en effet avoir éliminé plusieurs centaines de militants armés lors de cette opération et assouvit ainsi le sentiment de vengeance de sa population après l'attentat du 14 février contre les troupes indiennes au Cachemire. De son côté, Islamabad nie totalement ce bilan. Quelle que soit la vérité, les deux frères ennemis sont naturellement soucieux d'éviter une nouvelle guerre ouverte.
Partons maintenant à Bruxelles où se poursuit le procès de Mehdi Nemmouche, auteur présumé d'une fusillade au musée juif de Bruxelles en 2014 qui avait fait 4 morts. Le djihadiste français est accusé aux côtés de Nasser Bendrer, jugé lui pour complicité. Un verdict de culpabilité a été également demandé pour ce dernier, Antoine Maret.
L'accusation estime que Nasser Bendrer n'est pas co-auteur, mais complice. Complice, cela signifie que son aide pour l'attentat a été accessoire. Elle n'a pas été indispensable. Sans elle, le crime aurait pu malgré tout être commis. Pour le procureur, il n'y a aucun doute. C'est bien Nasser Bendrer qui a fourni les armes à Mehdi Nemmouche. Maître Adrien Massé est l'avocat du Musée juif de Belgique. Partie civile dans ce procès.
Le procureur n'a rien concédé dans ses accusations. Il confine M. Bender dans son rôle de complice pour avoir fourni les 2 armes. La démonstration repose sur des éléments du dossier, sur des témoignages qui ont été présentés aux audiences. Et donc ce sera bientôt vendredi à la défense de M. Bender de dire ce qu'elle pense de ses accusations et de ses éléments de preuve.
Le procureur s'appuie notamment sur le passé de délinquant de Nasser Bendrer, condamné à plusieurs reprises. Sa connaissance des armes. Nasser Bendrer baigne dans ce milieu. On retrouve des armes à son domicile et dans le pavillon où il est arrêté. Sa rencontre à la prison de Salon de Provence avec Mehdi Nemmouche. Les multiples contacts téléphoniques qu'ils ont dans les jours qui précèdent l'attentat. Pour le procureur, il y a peu de doute. Ces discussions ont tourné autour des armes réclamées par Mehdi Nemmouche.
Antoine Maret, notre envoyé spécial à Bruxelles. Paris assure ne pas avoir été informé. L'État néerlandais fait une irruption surprise au capital d'Air France KLM. Il prend une participation directe de 12,6%. Une décision qui intervient après de fortes tensions sur l'avenir du patron de KLM notamment. Après une semaine passée en prison pour ne pas avoir respecté leur contrôle judiciaire, Alexandre Benalla et Vincent Grasse sont sortis hier soir. Une victoire pour l'ancien collaborateur du président Emmanuel Macron et l'ex-salarié de La République En Marche. Leurs avocats contestaient en fait le bien fondé de cette incarcération. Ils l'ont fait sur la base de deux arguments principaux que nous explique maître Christian Saint-Palais, l'avocat de Vincent Grasse.
D'abord, nous disions il faut que la justice prenne des distances avec les pièces qui ont été versées au débat par le journal Mediapart. Vous savez que des extraits sonores ont été produits. Ce sont des extraits sonores sur lesquels le parquet a sollicité une expertise technique. Cette analyse n'est pas terminée. Et donc, nous n'avons pas compris qu'on puisse tenir pour acquise une rencontre prétendue en juillet 2018, alors même qu'on ne sait rien de l'origine, de l'authenticité, de l'intégrité des bandes qui ont été fournies au dossier pénal. Et puis par ailleurs, il n'est pas possible de dire que la détention provisoire est possible dans ce dossier, au sens où la détention provisoire doit être toujours jugée comme nécessaire, indispensable même, proportionnée à la violation du contrôle qui était prétendue. Nous nous disions aucune condition n'est réunie. Et donc il faut ordonner leur mise en liberté. Ça a pris une semaine, nous avons exercé les recours qu'il y a lieu d'exercer. La justice fonctionne comme cela, avec un double degré de juridiction. C'est important de savoir prendre le temps, à condition que les choses, in fine, se déroulent comme elles doivent se dérouler. Si j'exclus de mon raisonnement les quelques jours de détention qu'ont vécu Benalla et Grasse, eh bien, je dirais que finalement, ça n'a pas si mal fonctionné que ça.
Maître Christian Saint-Palais, interrogé par Florence Turme. On termine avec cette information donnée il y a quelques minutes. Le réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu présidera le jury du 72e Festival de Cannes en mai prochain. Oscarisé pour des films comme The Revenant ou Birdman, il est le premier Mexicain à présider le festival. Il succède ainsi à l'Australienne Kate Blanchett. Le pic de pollution aux particules fines ces derniers jours a poussé les autorités à interdire la circulation des véhicules les plus polluants à Paris et dans la proche banlieue, à Lille également et dans sa métropole. Pas de changement pour la météo aujourd'hui mercredi, du soleil sur tout le territoire, avec 7 à 11 degrés ce matin au nord de la Loire, 9 à 16 plus au sud. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Il est 6h40 sur France Culture. C'est l'heure de votre journal des idées. Et alors que des centaines de personnes ont quitté hier encore le dernier réduit du groupe État islamique, le colonel Légrier a critiqué la stratégie de la coalition en Syrie, Jacques.
Oui, il était jusqu'à sa relève récente, au terme de son mandat, à la tête des 200 artilleurs qui ont contribué à la réduction des derniers bastions de Daesh. Il s'exprime à propos de la bataille d'Adjin, achevée en janvier dernier, et non de celle qui est en cours à Baghouz, mais ses analyses valent également pour ce cas. Le Monde publie de larges extraits de son texte qui dénonce une guerre par procuration, sous-traitée au FDS arabo-kurde sur le terrain, et une approche exclusivement tournée vers la suprématie technologique. La coalition aurait ainsi perdu la maîtrise du tempo stratégique et intensifié les bombardements au prix de la destruction des infrastructures. Une approche assumée sans complexe par les Américains, mais que le colonel Legrier estime ne pas être la nôtre. Il rappelle que Mossoul et Raqqa ont subi le même sort, une destruction quasi complète. Les nations occidentales, dit-il, n'ont pas eu la volonté politique d'envoyer 1000 combattants aguerris, régler en quelques semaines le sort de la poche d'Adjin et d'épargner à la population plusieurs mois de guerre. Résultat, nous avons donné une détestable image de ce que peut être une libération à l'occidental, laissant derrière nous les germes d'une résurgence prochaine d'un nouvel adversaire. L'article est d'abord paru dans la revue Défense Nationale et publié à la une de son site avant d'être retiré suite à un coup de fil courroucé de l'état-major, où l'on fustige le manque de discernement de l'auteur, voire son défaut de loyauté, comme l'indique Jean Guinel dans lepoint.fr. Il précise que cet article n'est pas son rapport de fin de mission, classifié et inaccessible comme il se doit, et que sur son blog, le colonel Michel Goya apporte son soutien au colonel Legrier, ce qu'il fait également dans les pages idées du Monde d'ailleurs, en rappelant qu'en 2005, le général Petraeus demandait au général britannique Elvin Foster de faire dans la Military Review une critique de l'action militaire américaine en Irak et d'ajouter que c'est comme cela qu'on évolue et qu'on développe des idées neuves avec une dose de critique autour de l'action qui n'exclut en rien, la discipline dans l'action. Dans la dernière livraison de la revue Inflexion, qui s'emploie à faire le lien entre civils et militaires, le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de Défense nationale, a publié un article sur sa revue où il dénonce le cliché de la grande muette, car en contribuant au débat sur la défense et ses enjeux, les militaires apportent une expertise essentielle. Il rappelle notamment l'article sur l'offensive allemande en Pologne, paru dans le numéro d'avril 1940, qui faisait le point sur le Blitzkrieg, sans hélas que le grand quartier général de Vincennes en tira alors les conclusions utiles. Et Claire Legras revient sur le devoir de réserve, largement basé sur la jurisprudence et qui prête à interprétation. Elle souligne que notre pays s'honore d'une longue tradition d'expression libre de la pensée militaire, de Lyautey à De Gaulle, en passant par Foch et Castex. La directrice des affaires juridiques au ministère des Armées précise que l'obligation de réserve pèse sur tous les fonctionnaires avec des nuances importantes. Dans le cas des militaires, elle est codifiée, comme pour les magistrats, les membres du Conseil d'État et les policiers. Le statut interdit aussi l'adhésion à des groupements ou associations à caractère politique et à des syndicats, mais selon le Code de la Défense, les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres à condition qu'elles s'expriment en dehors du service et avec la réserve exigée par l'État militaire, soit la préservation des secrets et la sécurité opérationnelle. Mais même sur la dissuasion nucléaire, le débat est resté ouvert. Sur le site AOC, Jean-Pierre Dupuis analyse la dialectique tordue de cette doctrine, la doctrine de dissuasion, où la rationalité ne fait qu'un avec la folie. Le philosophe évoque le récent retrait des États-Unis, suivi par la Russie, du traité prévoyant l'interdiction des missiles à tête nucléaire d'une portée comprise entre 500 et 5500 kilomètres, et souligne qu'on ne peut pas gagner une guerre nucléaire. Le bouclier antimissile rêvé par Reagan ne pourrait être efficace que s'il l'était à 100%. Le premier missile qui passerait au travers serait le missile de trop, car dans le domaine nucléaire, on ne dissuade pas une attaque limitée en rendant hautement crédible une menace de riposte limitée. On la dissuade en maintenant à un niveau modique la probabilité de l'anéantissement mutuel. Conclusion, la dissuasion nucléaire prend acte de cette impuissance de la défense et c'est d'ailleurs la meilleure garantie que l'on donne à l'ennemi qu'on ne l'attaquera pas en premier. Dès lors qu'on s'entoure de systèmes de défense, on envoie le signal inverse et l'on déclenche ce qu'on appelle la préemption, prendre l'autre de vitesse et l'attaquer en premier, une logique infernale. 6h45 sur France Culture. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, le Nigeria.
Et oui, c'est officiel depuis hier soir. Le président sortant, Muhammadu Buhari, est réélu pour un second mandat de 4 ans à la tête du pays. Choix de la continuité donc avec 55,6% des suffrages. C'est aussi une avance de 4 millions de voix sur son principal concurrent, Atiku Abubakar, le candidat du Parti démocratique populaire qui conteste déjà. On en parle avec vous, Laurent Fourchard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes historien, directeur de recherche aux séries de Sciences Po et professeur au LAM de Bordeaux, auteur récemment de ce livre « Trier, exclure et polisser, les vies urbaines en Afrique du Sud et au Nigeria ». Alors, juste un mot sur le climat qu'on pourrait dire du scrutin. Ces dernières années, il y avait eu beaucoup de violences post-électorales. Cette année, elles sont beaucoup moindres, hein, 53 personnes tuées, le bilan le plus faible. Qu'est-ce que vous mettriez en avant ? C'est ce bon climat ou le fait que l'opposition conteste déjà et veut déposer des recours?
Alors bon, climat relatif, effectivement, puisque 53 morts, c'est quand même 53 morts de trop, mais effectivement, il y en avait une centaine environ en 2015, 800 en 2011, et on était à ces chiffres-là dans les élections précédentes. Donc il y a une pacification relative des élections, en dépit de ce que dit l'opposition. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il y a quand même des poches de violence dans certains gouvernements locaux pendant ces élections.
La deuxième remarque sur le climat électoral, ou plutôt les conditions du vote, c'est qu'il y avait un véritable défi logistique. 84 millions d'électeurs, 120 000 bureaux de vote. De ce point de vue-là, on peut dire que c'est réussi ce pari.
Voilà, mais c'est ça qu'il faut aussi mettre en avant, c'est-à-dire que... Et en face, c'est une réussite assez semblable à celle de 2015, à savoir qu'il y a quand même des niveaux de vérification en fait au moment du vote qui sont assez assez importants. Hein. Il y a les listes électorales qui sont affichées, il faut venir avec sa carte électorale biométrique, il y a le moment du vote. Il y a des personnels qui encadrent chaque élection, hein, chaque bureau de vote, il y a 120 000 bureaux de vote, il y a deux agents de la commission électorale, il y a deux agents pour chaque parti politique, il y a des agents du corps national du service volontaire, et puis il y a des forces de sécurité. Donc tout cela fait que en fait les élections se déroulent bien dans l'immense majorité des bureaux de vote. Quoi.
Oui, et avec des résultats finalement assez rapides à produire. Qu'est-ce que vous pensez des diverses accusations de fraude qu'il y a eu? Enfin, quand je dis diverses, il y en a une partie qui vient de l'opposition qui dénonçait dès lundi une manipulation. Il y en a une autre partie qui vient du parti au pouvoir, lui, qui dénonçait des fraudes dans un état, l'état de Rivers. Et puis une partie qui vient de la société civile qui évoquait, elle, je cite, des cartes d'électeurs davantage perçues comme une carte d'identité pas chère plutôt qu'un moyen de voter. Ça fait quand même pas mal de soupçons, non?
Alors, pas mal de soupçons, mais pour l'instant, ils sont pas vraiment fondés. Et puis, les accusations réciproques des deux partis, des deux principaux partis du pays, sont finalement assez communes, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, dans chaque bureau de vote, quand on vient avec sa carte biométrique, c'est vérifié donc par les agents de la commission électorale. Et quand il y a un bug, en fait, la commission électorale appelle des spécialistes qui viennent débloquer la machine. Donc c'est arrivé dans plusieurs bureaux de vote, mais il y a vraiment une vérification de la validité de la carte. Il y a d'ailleurs un certain nombre de cartes qui n'ont pas été distribuées, pour des raisons logistiques, mais c'est plus pour des raisons logistiques que pour des raisons de délibérer de trucage électoral. Il faut quand même rappeler aussi que dans chaque État, c'est souvent en fait une personnalité universitaire importante. Généralement, c'est le vice-chancellor, c'est le doyen ou le vice-doyen de l'université, une grande université de l'État qui vient annoncer les résultats à Abuja, en quelque sorte pour garantir un peu la fiabilité des résultats.
Oui. Et
voilà.
Donc pas de doute sur l'intégrité du scrutin, on pourrait dire, alors qu'on en vienne aux chiffres. Par contre, un premier chiffre qui est vraiment peut-être étonnant, c'est quand même une participation assez faible, hein, 32% seulement. C'est même la plus faible depuis ces dernières années. Qu'est-ce que ça signifie?
Alors c'est difficile à interpréter, hein, ça, c'est... Il y a plusieurs choses, peut-être déjà le fait que la majorité des électeurs ont moins de 35 ans et que en fait les élus et en tout cas les principaux candidats ont plus de 70, donc il y a peut-être un gap générationnel qui est important, mais c'est pas entièrement nouveau, bon, mais l'abstention monte en tout cas par rapport à 2015,
ouais,
c'est plutôt à 54%. Une première chose, peut-être qu'il y a le discrédit aussi de la classe politique. Hein. Là, on est dans un schéma bien connu en France, en fait, d'une certaine manière. Il y a une alternance donc, l'année dernière en 2015, et comme les performances du nouveau parti n'ont pas été excellentes, c'est le moins qu'on puisse dire, et bien, il y a peut-être une désaffection pour la classe politique et sa capacité à changer les choses au Nigeria.
Ouais.
Ça doit jouer. Et peut-être dans certains cas effectivement un sentiment d'insécurité pour aller voter, hein, dans certains cas ça joue certainement, ainsi que le fait de revenir dans son état si par exemple on n'a pas changé sa carte électorale biométrique, il faut revenir voter dans son état, donc ça peut décourager un certain nombre d'électeurs, mais c'est comment on se met à
une
manière.
Oui, et puis il faut dire que le scrutin avait été reporté d'une semaine aussi. Peut-être que des électeurs s'étaient déplacés il y a une semaine, qu'ils n'ont pu se déplacer la semaine suivante. Possibilité aussi.
Tout à fait, ouais. Oui. Tout à fait possible. Effectivement, il y a eu une grande déception et puis même de la colère contre le report de cette élection. Alors pas tant parce que c'est très original, ça, hein, c'est arrivé dans le passé, mais surtout parce que ce report a été fait quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Il y a même des bureaux de vote qui ont des électeurs qui se sont rendus au bureau de vote le matin en découvrant finalement que l'élection aurait lieu la semaine suivante.
Donc, ouais.
Effectivement, c'est assez décourageant pour voter.
Donc encore une influence des questions logistiques. Sur l'adhésion, par contre, les 55,6% quand même à Mouamadou Bouhari, c'est assez étonnant. C'est pas un plébiscite, mais quand même une bonne validation de sa candidature. Lui qui était quand même relativement contesté pour son bilan, on va dire. Vous l'avez dit, septuagénaire, alors que la moitié du corps électoral à moins de 35 ans, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors, bonne performance, effectivement. Bon, il a à peu près le même nombre d'électeurs qu'en 2015, hein, 15 millions d'électeurs comme en 2015. Mais il n'a pas progressé non plus et le parti d'opposition n'a pas progressé davantage. Donc, il y a davantage d'abstention et c'est ça la différence avec 2015. Le président sortant, en fait, rafle la mise dans les États qui lui sont relativement fidèles. En gros, c'est le Nord. Hein. Le Nord a voté vraiment majoritairement, très majoritairement, même des fois à 70-80% pour Buhari. Alors que le Sud, bon, traditionnellement, qui vote dans l'opposition, a également voté dans l'opposition. Donc il y a deux zones, en fait, qui sont un peu plus mythiques, on va dire. C'est... les États donc, qu'on appelle la Middle Belt, les États centraux en fait du Nigeria, où là c'est partagé, avec des États qui changent de majorité, on ne sait pas encore pourquoi, dans quatre cas. Et puis dans le sud-ouest, des États qui passent à l'opposition, qui a des résultats assez étonnants, dans l'État d'Ondo et l'État d'Oyo, qui sont aux mains de la majorité présidentielle depuis longtemps, qui passent dans l'opposition, et là qui trahissent peut-être... une certaine désaffection pour le président sortant, en quelque sorte. Même à Lagos, qui est un bastion en fait du parti présidentiel, Buhari l'a remporté vraiment par haut la main, quoi. Enfin, donc là, ça pose question sur effectivement le fait que je sais pas, un certain nombre d'électeurs dans ces États du Sud-Ouest sont trouvent le bilan économique notamment du président probablement catastrophique.
Oui, donc un léger frémissement dans la carte électorale, on va pouvoir voir ça dans les prochains mois, les prochaines années, ce que ça veut dire. Alors justement, sur les principaux chantiers, vous avez parlé de l'économie, ce qui est sans doute un des principaux, hein, avec un chômage qui est quand même endémique, je crois que c'est 55% pour les 15-35 ans. La question de la croissance, également la question de la sécurité avec Boko Haram toujours présent, et puis la corruption, lequel est le principal de ces chantiers, j'en ai cité que trois, il y en a peut-être d'autres.
Ah oui, ben en fait, tous ces chantiers vont ensemble d'une certaine manière. Donc il avait été réélu, en 2015 sur la question de la sécurité, de la lutte contre la corruption et de la relance et de la relance économique. En termes de sécurité, le bilan est mitigé. Boko Haram a effectivement reculé dans le nord-est, mais il y a un conflit beaucoup plus important qui a émergé donc dans ces états de la Middle Belt. Conflit qu'il n'a pas réglé. Bon, c'est aussi un des conflits que les gouverneurs doivent régler dans leur état. Au niveau de la croissance, donc elle était en berne en 2016, elle a un peu repris là depuis quelques temps, mais en fait, il y a un chômage de masse, il y a une baisse des allocations fédérales aux États et aux gouvernements locaux, une augmentation de la fiscalité locale qui est très fortement ressentie par les populations et qui pèse vraiment sur les populations, sur le moral des gens, une inflation aussi importante. Donc il y a vraiment des problèmes économiques majeurs et c'est certainement ça en fait la priorité du gouvernement, relancer l'économie, être moins dépendant du pétrole, mais ça c'est une question... Il y a 40 ans au Nigeria, la diversification de l'économie.
En tout cas, c'est ce qu'avait affirmé Buhari, que le secteur non pétrolier avait bondi de 82% en 2018. On suivra ça. Merci pour vos explications, en tout cas. Puis on verra aussi les élections des gouverneurs le 9 mars. Merci pour ce matin, Laurent Fourchard, historien, directeur de recherche au CERIS Sciences Po. Et on renverra à votre livre « Trier, exclure et policer, vie urbaine en Afrique du Sud et au Nigeria ».
L'épidémie de grippe est là. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des gestes simples peuvent être adoptés. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Portez un masque dès l'apparition des premiers symptômes. Éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs en papier à usage unique. Évitez les contacts avec les personnes fragiles, comme les personnes âgées ou malades, les nourrissons et les femmes enceintes. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Et à 6h57 sur France Culture, on n'éternue pas, on accueille les matins et Guillaume Herner. Bonjour Guillaume.
Bonjour Xavier Martinet et bonjour à tous.
Alors, après le point Godwin, c'est le point hijab.
Bah oui, il n'y a pas que le point Godwin dans la vie, le point au-delà duquel sur Internet on va évoquer le nazisme, preuve que tout débat est impossible. Il y a aussi le point hijab, car dès qu'il est question de voile en France, c'est l'hystérie qui remplace la raison. Plus personne n'a la tête froide, à défaut défaut de l'avoir couverte. Et à l'occasion de la polémique déclenchée par l'apparition d'un hijab de course que Decathlon voulait mettre en vente, j'ai appris l'existence d'un community manager, comme on dit, employé par Decathlon pour répondre à tous les messages d'insultes haineux, simplificateurs, que Decathlon a reçu au sujet de la mise en vente de ce voile de course, car que l'on soit favorable ou hostile à l'existence de ce voile, rien n'explique le torrent de haine que déclenche dans le débat public l'apparition du terme voile. Ce hijab de course est une sorte de conte moderne, même si c'est un conte qui déclenche la colère et l'hystérie, parfois un conte moderne parce que pendant longtemps on a évoqué la religion de la modernité, maintenant voici la modernité qui s'attaque à la religion. Chaque religion voit ainsi l'irruption d'une dose de modernité dans ses pratiques ancestrales, des petites diodes remplaçant les bougies dans les églises, de la fausse crevette à base de poisson remplaçant les crevettes interdites dans la cuisine cachère, des hijabs de course recouvrant la tête des coureuses, prescription qui n'avait probablement pas été formulée à l'époque où la notion de voile est devenue coutumière dans une partie de l'islam. Et c'est pour cela que cette polémique est aussi rude, parce que finalement aucun point de vue ne s'impose entre ceux qui pensent qu'il s'agit d'une manière de moderniser la religion, autrement dit d'en sortir un peu, et ceux qui considèrent au contraire qu'il s'agit d'introduire de la religion dans la modernité, autrement dit de faire marche arrière ou course arrière comme vous voudrez. Au sujet de l'islam, chaque camp fourbit ses armes en permanence en France, voilà pourquoi le point hijab n'attend qu'un signe pour être franchi. Encore peut-on se féliciter, Xavier, que le débat n'ait pas été encore plus âpre, par exemple si Decathlon avait proposé à la vente ce hijab de course assorti d'un gilet jaune.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Et aujourd'hui, deux salles, deux ambiances. À 7h40, on évoquera l'épisode de pollution de l'air qui frappe la France cette semaine. Comment expliquer cette pollution et quelles solutions pour tenter d'y remédier? Et puis, aux environs de 8h20, un cadeau de mercredi. Deux femmes, une grande actrice et une grande romancière, Juliette Binoche et Camille Laurent, seront nos invités. La première joue le personnage créé par l'autre dans un roman intitulé « Celle que vous croyez » et le film, il s'appelle aussi « Celle que vous croyez ». 7h sur France Culture, très bon réveil à tous.